Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Car il nous a sauvés par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous adorons Seigneur
Jésus-Christ. Jésus-Christ, je t'adore.
Jésus-Christ d'entre les morts. Toi qui nous rends capable de vivre la vie chrétienne, que tu nous montres comment adorer le Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit.
Chantons Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Jésus le Créateur, Jésus qui s'est révélé
aux âmes, le Fils de l'homme, Jésus. Seigneur, Seigneur, donne-nous d'avancer dans la connaissance de ta personne, d'avancer, Seigneur, dans la sanctification, dans la vérité, dans la justice, de comprendre ta parole, de nous l'appliquer dans nos cœurs et que nos vies te soient conformes, Jésus. Jésus, c'est toi que nous verrons un jour et que nous verrons bientôt. Jésus, c'est toi que nous contemplons déjà avec les yeux de la foi dans nos cœurs. Jésus, Jésus, qui est l'expression de Dieu, qui est l'émanation de Dieu, qui est Dieu mis à la portée des âmes. Jésus, nous voulons te ressembler, nous voulons te servir, t'aimer, te donner nos vies, nous livrer à toi, vivre de ta vie. Oui, Jésus, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, viens en nous-mêmes, aide-nous à comprendre, Seigneur, l'incompréhensible. Pourquoi nous as-tu tant aimés? Pourquoi? Jésus, Jésus, merci. Sanctifie ta parole maintenant pour nous tous. Nous lirons ensemble dans Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine ?» Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Alléluia. Oh, c'est toujours la joie, lorsque ce qui était perdu est retrouvé. Nous avons trois merveilleuses paraboles là. Ces trois derniers dimanches, on en a parlé. La parabole de la brebis perdue. Cette brebis, au milieu d'un troupeau de 100 têtes, cette brebis, elle s'est égarée par sottise, par bêtise. Simplement, elle n'est pas restée avec le troupeau. Elle a voulu être indépendante, faire sa propre vie à elle-même. Et du reste, l'herbe qui est là-bas, plus loin, elle est meilleure que celle qu'on m'offre ici. Alors, après tout, je suis libre. Elle est allée brouter cette herbe. Elle s'est trouvée égarée. Et le berger a laissé ses 99 brebis dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue, sans savoir où elle était. Mais il l'a cherchée jusqu'à ce qu'il la trouve. Et cette parabole de dimanche dernier de cette pièce que cette femme possédait parmi 10 pièces, 10 drachmes qu'elle avait, une de ces drachmes est tombée dans sa maison et elle était perdue. Elle en avait 10, c'est vrai, mais elle ne voulait pas perdre la 10e ou la première ou je ne sais. Mais c'était une valeur pour elle. C'était une valeur, elle ne pouvait pas perdre cette valeur. Cette pièce n'était pas responsable de sa perte. Loin de là, c'est une chose, ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas. Ce n'est pas vivant, une pièce. Et ceci représente ces valeurs que Dieu nous a données. ces valeurs qu'il nous a données et que nous laissons échapper de nos mains par négligence, parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui sont perdus à cause de nous. Dieu nous avait donné, demandé de les gérer, de les conduire, mais nous n'avons pensé qu'à notre propre ventre, à nos propres avantages, et nous avons laissé échapper les valeurs que Dieu nous avait données à gérer. Et c'est ainsi qu'il y en a beaucoup qui sont perdus à cause de l'inconséquence d'autres. Dieu nous donne à gérer des choses. Dieu nous donne à gérer des hommes et des valeurs. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Mais ces comptes, Dieu ne veut pas qu'une seule de ses brebis soit perdue. Dieu ne veut pas qu'une seule de ses valeurs soit perdue. Alors, ce qu'il fait, il prend le balai, il balaye tout, il bouleverse tout. La Bible nous dit que le jour vient où Dieu va secouer ce monde et il va tout ébranler. La sagesse des hommes, les hommes, l'intelligence des hommes. Il veut trouver ce qui est perdu. Jésus est venu dans ce monde pour récupérer ce qui est perdu. Des paraboles extraordinaires. Quelle sagesse dans les discours de Jésus. Quelle simplicité, mais quelle profondeur. C'est extraordinaire. Et là, nous arrivons à cette parabole de ce fils perdu. Lui, c'est de sa propre volonté. Il a voulu faire sa volonté, il a voulu faire sa vie comme il l'entendait. Il a choisi ce qu'il a eu. Il l'a choisi, il l'a bien voulu. Il était dans la maison du Père. Là, nous avons la parabole la mieux connue de la Bible. Ces trois paraboles, du reste, ont parcouru le monde chrétien les connaît, et cela est enseigné dans toutes les écoles du dimanche, le fils prodigue. Qui ne connaît pas l'histoire du fils prodigue? Mais il arrive souvent que nous connaissons tellement bien ces histoires qu'elles n'ont plus de signification pour nous. Au contraire, elles ont une signification extraordinaire. Ces paraboles touchent le nerf même de la vie humaine, de la vie de l'homme avec ses problèmes communs à tous les hommes. Il est le Dieu de tous les hommes. Il est le Dieu aussi des perdus. Nous avons là un garçon qui est dans la maison du Père, avec tous les avantages que cela représente. Être dans la maison du Père, il est le fils, il est l'héritier. Tout ce qui est à son Père est à lui. Il est là, il est le maître, bien sûr, puisqu'il est le fils. Il n'a pas une position d'esclave. Il est là, et tout ce qui est à son Père, c'est à lui. Tout ce qui est à lui est à son Père. Et du reste, son Père est un homme de très haute moralité. Mais, pour lui, la présence même du Père le gêne. Le gêne, elle importune. Il n'aime pas. Il y a quelque chose qui est contraire en lui-même. C'est une contrainte. Son père est une contrainte pour lui. Il ne se sent pas libre. Son père, c'est un homme droit. C'est un homme juste. C'est un homme intègre. C'est un homme modéré. C'est un homme sobre, discipliné. C'est un homme qui a de l'autorité. Son autorité n'est pas le fait d'avoir un titre ou une position. Non, son autorité est le fait de ce qu'il est lui-même dans son caractère. Vous savez, il y a toutes sortes d'autorités dans le monde. Il y a des autorités qui sont autorités parce qu'ils ont un titre, une position. Mais en réalité, ils n'ont aucune autorité, rien du tout. Leur vie est le contraire de ce qu'ils prétendent être. Et il y a des hommes qui n'ont aucun titre, aucune position. Mais cette autorité émane d'eux à cause de leur caractère. Caractère intègre, caractère juste, caractère noble. Modéré, sobre. C'est une autorité qui émane de l'homme. Il ne fait rien pour cela. C'est simplement sa personne, son caractère. Quand on le voit, quand on parle avec lui, eh bien, on se tient. Pourquoi? Parce qu'il y a une noblesse qui sort de lui à cause de ce qu'il est. Et croyez-moi, tout homme de Dieu qui a Dieu dans son cœur, ce sont des hommes qui ont reçu une autorité d'en haut. Ils n'ont pas besoin d'avoir un titre reconnu par celui-ci ou celui-là pour avoir autorité. Frères et sœurs, il est temps que le peuple de Dieu manifeste l'autorité de celui qui est dans leur vie et dans leur cœur, et qu'ainsi, par leur autorité, ils influencent les autres. Mais je sais, il y en a qui ne supportent pas cette autorité. Ils ne la supportent pas. Il ne supporte pas. C'est quelque chose qui émane de cet homme. Ce père est bon. Ce père est tendre. Il aime ses enfants. Mais l'un d'eux est rebelle. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est sous l'autorité du papa. Je ne suis pas libre ici à la maison, dit-il. Je veux faire ma vie comme je l'entends. Il veut faire sa volonté propre. Il ne veut plus être sous l'autorité du père. Du reste, je suis majeur. Du reste, je peux bien aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Du reste, personne ne m'oblige de rester ici. La volonté propre. Bien sûr, chacun peut faire ce qu'il veut. Bien sûr, chacun peut exercer sa propre volonté. Mais notre propre volonté n'est pas forcément bonne. Oh non! La rébellion, la sottise et la folie est dans le cœur de l'homme. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Lisez les proverbes. Le plus jeune de ses deux fils demanda à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Je veux faire ce que je veux. Je veux mener ma vie comme je l'entends. Comme je l'entends, ma liberté sans restriction. Laisse-moi !» Laisse-moi courir les filles si je le veux. Laisse-moi aller boire au bar si je le veux. Laisse-moi aller avec mes copains, mes copines où je le veux. Faire le travail que je veux. Être sous ton autorité, non. Peut-être qu'il va pas parler comme cela, mais c'est le raisonnement qu'il a dans son cœur. Ici, je suis sous la loi du Père. Du reste, le zèle au travail de mon frère m'énerve. Sa soumission m'agace. Je veux voir autre chose. Il y a un monde là-bas. Un monde là-bas auquel je veux goûter. Écoutez, frères, sœurs, il y a un problème avec ce jeune homme. Et ce problème, c'est celui-ci. Et beaucoup d'entre nous, nous avons ce problème. Il croit au mensonge de la liberté sans la loi. Ah ! Et il y en a beaucoup qui sont comme cela. Sous prétexte de liberté, plus de loi. Nous balançons la loi. Nous n'avons plus besoin de la loi. Sous prétexte de liberté, plus de loi. Quel mensonge! Voilà la raison qui a fait que notre pays s'est écrasé. Sachez que la vraie liberté est régie par des lois. Autrement, la liberté n'est pas liberté. Elle est anarchie et désordre. Toute véritable liberté est régie par des lois. Son père n'essaye pas de le retenir. Non, pourquoi? La maison du père ne peut être une prison. Tu ne veux pas rester dans la maison du père? Eh bien, va ta route. Je n'ai jamais vu que Dieu ait forcé quelqu'un à le suivre et à marcher avec lui. Je n'ai jamais vu que Dieu ait forcé quelqu'un à suivre ses commandements et ses lois. J'ai vu plutôt des hommes et des femmes qui refusent parce qu'ils trouvent que c'est trop contraignant. Ils ne veulent pas sentir cette autorité au-dessus d'eux. Bon, ils sont chrétiens, mais laissez-moi faire ma vie. De temps en temps, je vais à l'église, ça suffit. Mais Dieu n'a pas besoin d'être aidé, d'être calmé par toi. Tu viens à l'église pour calmer Dieu, mais non. Il a besoin de ton cœur et de ta vie. Il a besoin de ta soumission à sa loi. Et quand tu es soumis à sa loi, tu es vraiment libre. Son père n'essaye pas de le retenir. La maison du père n'est pas une prison. Il n'est pas obligé de rester là contre sa volonté. Dieu, notre Père, ne nous oblige pas de rester dans sa maison sous son autorité. Si nous ne comprenons pas que là, avec lui, nous sommes véritablement libres, alors nous serons en prison, sans joie et sans paix, dans la maison du Père. Je ne veux pas que l'Église de Jésus-Christ devienne une prison. Tu dois venir à l'Église, tu dois venir prier. Il faut. Moi, je connais des familles, qui ont très mal fait avec leurs enfants. Mais oui, le dimanche matin, les enfants, debout, habillez-vous, on va à l'église. Oui, tu dois venir à l'église. Ah, mais. Tu dois venir, allez, une claque, tu viens à l'église. Et tous les dimanches, c'est la même scène. Il faut que tu viennes à l'église, tu dois venir prier, il faut que tu viennes prier. Mais jamais on parle à l'enfant pour lui dire, écoute, hein, bien sûr, tu peux venir à l'église si tu le veux, mais si tu viens à l'église, le Seigneur te bénira. Lui expliquer d'une façon positive. Non, on fait une loi dure. Dure. L'enfant vient à l'église sans aucune joie, sans aucun plaisir, et le jour où il peut s'en débarrasser, il va s'en débarrasser. C'est pas vrai? Ah. Non, la maison de Dieu, la maison du Père, n'est pas une prison. L'autorité pleine d'amour du Père lui pèse. Il ne peut supporter cette autorité. Donne-moi la part des biens qui me revient. Voilà son exigence. Peu de jours après, ayant tout ramassé, il partit pour un pays lointain. Loin, loin, loin. Il met de la distance entre lui et son père. Il étouffe la voix de la conscience. Il veut oublier son passé et il veut jouir de la vie, jouir de ses biens, de tout ce qu'il possède, jouir de ce monde, jouir de l'argent et des avantages qu'il procure. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Mettre de la distance entre la maison du Père et lui. Aller dans ce pays lointain. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y en a comme Zaïrois qui veulent aller dans les pays lointains? Qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? En Amérique. En Europe. En Allemagne, tout à l'heure, il y avait un brave homme que je connais très bien, pour lequel Dieu a fait des choses. C'était un officier dans l'armée. Il était ici au culte. On a parlé ensemble. Un homme qui craint Dieu. Il m'a dit, voilà, je pense que je vais partir en Allemagne à mon frère qui travaille là-bas. Et ça fait tic dans mon cœur. Je lui ai dit, mais notre pays a besoin de gens comme vous. Je lui ai dit, ne partez pas comme cela. Priez d'abord que la volonté du Seigneur soit faite. Priez d'abord. Il parlait de travailler là-bas et tout ça. J'ai dit, mais, mon ami, votre pays a besoin d'hommes comme vous. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous ayez dans un pays lointain? Ne fuyez pas la maison du Père. Ne fuyez pas ce que Dieu pourrait vous demander ici. Dieu a besoin d'hommes de valeur, d'hommes intègres, d'hommes qui ont souffert. Je sais qu'il a souffert, il venait de Lubumbashi, je me souviens, je connais bien son histoire. D'hommes qui ont souffert parce qu'ils ont refusé d'entrer dans la magouille qu'on a condamné injustement. Je dis, votre pays a besoin d'hommes comme vous. Non, frères et sœurs, ce qui est le mieux de tout, c'est de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, car nous sommes ici-bas sur cette terre pour un but particulier. Pour un but particulier. Et nous devons accomplir la tâche que Dieu nous demande de faire, afin que lorsque nous serons devant lui, il puisse dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais lui veut mettre le plus de distance possible entre son père et lui. Plus loin, le plus loin possible de la contrainte, le plus loin possible du contrôle, le plus loin possible de la discipline. Pourquoi ne pas faire ce que l'on veut? S'exprimer sans retenue. Je veux pouvoir m'exprimer comme je l'entends. Et si j'ai envie de dire des gros mots, je veux les dire. Dans la maison du Père, je ne peux pas le faire. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils sont nés rebelles. Pourquoi rester sous le joug du Père avec ses principes, avec ses règlements, avec sa morale? Le Père ne fait jamais de morale, mais sa vie elle-même est toute une morale. Il y a des gens qui sont détestés dans des sociétés. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas comme tout le monde. Ils sont toujours polis, ils ne font jamais de sermon à qui que ce soit, mais leur vie est un sermon. Et on les déteste. Parce qu'ils refusent de tomber dans la corruption comme tous les autres. On les haït à cause de cela. Peu importe, mes frères, on a haï Jésus aussi, parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Oh, le Père, il est vieux jeu. Il ne vit pas avec son temps. Moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Oh, le mensonge! Oh, la séduction! Détruisons-nous la loi en la rejetant? Sachez que la loi demeure et elle nous retrouvera un jour. Cette route que l'on suit de la rébellion, de la désobéissance, loin de la maison du Père, c'est une route qui a deux phases bien distinctes. La première phase, c'est la phase de la séduction. Les plaisirs, la satisfaction, l'argent, les femmes, l'orgueil, la grande vie, les lumières. La deuxième phase de cette vie, c'est quoi? La déchéance, la pauvreté, la maladie, la misère, la destruction, la ruine morale, la ruine totale, parce qu'on a rejeté la loi. Un homme peut démontrer sa liberté en se jetant du 20e étage du CCIZ, on devrait dire CCIC aujourd'hui. Il peut monter là-haut, tout en haut, et dire, mais moi je suis libre, hein? Je suis libre, je peux me jeter là. Mais son acte, soi-disant de liberté, le détruirait. Car son acte n'anéantit pas la loi de la pesanteur. Sa liberté et son acte n'anéantit pas la loi de la gravitation et de l'attraction terrestre. C'est l'homme qui sera anéanti, mais pas la loi. Ah! La loi reste la loi. La morale reste la morale. Si, sous prétexte de liberté, au mensonge, on viole la loi, on viole le droit des autres, on piétine la loi, on méprise l'honnêteté, les conséquences sont inéluctables, l'écrasement. N'est-ce pas ce que nous avons vécu ici, dans notre pays? Il y a eu d'abord des années d'euphorie. Des années d'euphorie, toutes les nations chantaient, n'est-ce pas? La gloire de l'idole ou des idoles. Quand je pense à ces années, moi qui suis venu ici au Congo, du temps de Kasavubu, et les changements que j'ai vus, oh, à cette époque-là, combien de fois nous avons pleuré, mais nous étions considérés comme des fous. J'ai vu tous ces pasteurs acclamer et adorer les nouvelles idéologies. On n'aimait pas le message que nous apportions et l'éthique que nous apportions. Alors que la magouille était dans certains domaines, je ne veux pas aller dans les détails, et que nous luttions là contre, c'est nous qui étions accusés devant le tribunal de pasteurs. Pourquoi? Parce que ceci ne nous regardait pas étrangers. Vous n'avez rien à dire ici. Que de fois le cœur battant, je répondais à ces convocations. Combien de nos collègues sont partis découragés? J'ai dit non, je ne partirai pas, je suis en service commandé. À moins que celui qui m'a appelé me dise d'aller ailleurs. Mais il a un troupeau, il a des âmes ici dans ce pays. Le temps a passé. Et combien de larmes j'ai versées, et combien de peurs aussi. Je ne suis pas un homme fort, je tremble aussi. J'ai tremblé, mais j'ai continué, et Jésus était là. Frères et sœurs, il y a eu des années d'euphorie, je l'ai vu. Personne n'y voyait rien. Tout le monde suivait le mouvement qui portait trois lettres. Tout le monde adorait. Et servait. Après les années d'euphorie, c'était les années de misère, d'écrasement, de pauvreté, de salaire impayé, d'injustice, plus de justice. Celui qui a l'argent gagne le procès, celui qui n'a pas d'argent perd. L'écrasement, nous avons vu cela. Je ne prêche pas une théorie, frères et sœurs, mais nous devons apprendre. La vérité reste vérité. Au mensonge, on viole le droit des autres, on piétine la loi. Aujourd'hui, nous sommes devant d'autres dangers. D'autres dangers. Nous parlons de démocratie, d'accord, démocratie, mais qui c'est qui comprend la démocratie? La démocratie, est-ce pour moi une occasion de crier dans les rues et de empiéter sur le droit d'un autre? Est-ce pour moi l'occasion de détruire sa maison, tout simplement parce qu'il ne pense pas comme moi? Est-ce pour moi l'occasion de vouloir obliger mes idées et de remettre tout, tout encore dans le sang, dans la violence? Non, certes non. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais dans le cadre de l'ordre et de la loi. Tout ça, ces principes-là, mes frères, ils sont dans la parole de Dieu. Et nous devons le comprendre si seulement nous voulons être des hommes mûrs pour conduire une nation, un peuple, une famille, une société, une entreprise, afin qu'elle prospère. Il y a des règles. La véritable liberté a toujours des limites, et c'est ça que nous devons savoir. Vous dépassez la limite, vous tombez dans le chaos et le désordre. Rien ne peut être vrai ou est faux en même temps. Rien. Il existe une loi morale, il existe une loi physique. Oh, Dieu est fidèle dans ses lois. Tous les matins, le soleil se lève à l'horizon. Il brille et il répand sa chaleur. Les nuages couvrent la terre et selon une loi bien précise, les eaux se déversent sur la terre. Le fleuve Congo déverse ses eaux. Il n'est jamais vide. La mer reçoit les eaux de tous les fleuves du monde. Elle ne déborde jamais. Tout ce monde obéit à des lois. Les étoiles brillent dans l'espace, le vent souffle. Ce monde est régi par des lois physiques et Dieu fidèle envers ces lois. Des lois qui régissent la société. Une société qui n'a pas de loi est une société qui est vouée à la destruction propre. Des lois qui régissent l'État. Il faut que ces lois soient justes, soient équitables et qu'elles doivent être obéies. Et nous avons notre liberté complète dans la limite de ces lois. Toutes ces lois sont nécessaires. Pourquoi? Pour l'harmonie, pour la paix, pour la vie. Dieu a ses lois. Et si nous n'obéissons pas à ces lois, il n'y a que l'écrasement et la perdition. Il dissipa ses biens, est-il dit. Ah, il avait des biens? Mais oui qu'il en avait. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné des biens. Regardez ce corps qu'il nous a fait. En tout cas, ça c'est une richesse. Croyez-moi, la plus grande richesse, ce n'est pas le diamant, l'or, l'argent, les dollars, que sais-je, la voiture, la maison. Non, la véritable richesse, c'est ce corps en bonne santé. C'est cette intelligence équilibrée. Ce sont ses mains habiles. Voilà la richesse d'un homme. Voilà la richesse d'un homme. Faites valoir cette richesse de façon intelligente. Oui, Dieu nous a donné une richesse. Et cette intelligence, tu peux la développer. Tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes, des degrés académiques. Tu as développé cette richesse intellectuelle afin que tu la fasses valoir. Et avec cette richesse et ce savoir-faire que tu as acquis par l'étude et l'expérience, tu peux ainsi pourvoir à ta nourriture, à ton vêtement, à ta famille, un logement, pourquoi pas, une voiture, pourquoi pas, et riche, pourquoi pas, d'une richesse honnête. Si tu es riche, alors tu peux mettre en valeur cette richesse et aider ceux qui n'ont pas, aider la propagation de l'Évangile, aider l'avancement du royaume des cieux. La richesse, c'est ça que Dieu t'a donné. Il dissipa son bien. C'est ce que l'ennemi veut. Le voleur ne vient que pour voler et détruire, dit Jésus. Le gaspillage, quel gaspillage n'avons-nous pas eu ici? Pas vrai? Un pays immensément riche, des richesses incroyables, qui dépassent tout ce que les richesses de l'Afrique du Sud ou de bien des pays. La Suisse, quand je pense à ce petit pays, n'a aucune richesse, vous m'entendez? Rien dans son sous-sol, absolument rien, rien, rien. Ici, c'est un pays immensément riche. Diamants, minéraux de tout genre, or, sol qui peut produire, et quoi encore? Et nous sommes malheureux! Pourquoi? Gaspillage! Pas de discipline! Soi-disant libre, mais esclave! Gaspillage de biens, gaspillage de santé, gaspillage de jeunesse! D'abord, il y a toujours les deux phases, l'euphorie. On est maître de soi, je suis indépendant, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Chaque jour, il dissipe, chaque jour, il gaspille sa substance en s'indulgeant dans toutes sortes d'abus et de licences. Il y a un passage dans les Lamentations de Jérémie, là, qui est très fort, au chapitre 3, au verset 27, il est dit là, « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Ah, le joug de la discipline, le joug de l'obéissance, le joug des règles à suivre, le joug de la loi. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être y a-t-il espoir qu'il mette sa bouche dans la poussière, c'est-à-dire qu'il se taise. Dites-nous, quand je vois ces gamins, tout étudiants qu'ils peuvent être, qui crient dans la rue, pour moi, ils perdent toute dignité. Ils sont prêts à jeter des cailloux dans vos fenêtres, à casser les vitres de votre voiture, à enfoncer votre voiture. Ils n'ont aucune expérience, ils n'ont même pas vu le Congo du temps de Kazavubu. C'est vrai. Et les voilà qui savent tout, qui connaissent tout et qui sont prêts à tout casser, manipulés qu'ils sont par eux-mêmes et par d'autres. Moi, quand je vois ces types-là, j'ai pitié d'eux, je vous dis franchement. Ce sont des pauvres types, ils croient savoir, ils ne savent rien. Ils n'ont aucune expérience, ce sont encore des bébés. Que dit la Bible? Il est bon que celui-là soit la bouche dans la poussière. Ferme ta bouche. Apprends d'abord. Apprends d'abord. C'est pas les vieux papas qu'on voit crier dans la rue. Vous en avez vu? Moi, j'en ai pas vu. Peut-être un ou deux, c'est possible. Peut-être qu'ils sont un peu foufou. Non, 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 non! Assez de misère, assez de cris, assez de pillages! En quelques années, 3 pillages dans notre ville. Des innocents meurent, des malheureux qui pleurent, des bras cassés, des jambes cassées, et quoi encore? Est-ce que c'est cela que nous voulons, ce chaos? Il y a d'autres moyens pour faire et pour dire ce que nous pensons, croyez-moi. Chaque jour, il dissipe et il gaspille sa substance, s'indulgeant lui-même dans toutes sortes d'abus et de licences. Ces hommes qui crient dans la vie, dans la rue, comment est-ce qu'ils vivent? Combien est-ce qu'ils ont de concubines? Sont-ils fidèles? Combien de filles avec lesquelles ils vivent là-bas, sur le campus? Dans combien de fétiches sont-ils pas? Combien de vols et de rapines? Ceux-là vont me dire ce qu'il faut faire? Non! Moi, je m'adresse à mon Créateur. C'est lui qui a la réponse. La sagesse se trouve en lui. La volonté, lorsqu'on suit ce chemin-là, la volonté se désintègre. L'imagination est en fièvre. C'est le chaos. Le corps se brise dans l'esclavage des passions qui le détruit. La vie se détruit. Elle s'en va. Et c'est fini. Pourquoi? À cause du rejet de la loi, à cause du rejet du commandement, à cause du rejet de marcher entre ces deux limites. La loi, loin de détruire, aide à vivre. C'est ça que nous devons savoir. La loi aide à vivre, mais quand on la viole, elle devient dure. Elle tue. Tous ceux qui enfreignent la loi selon la parole de Dieu sont dignes de mort. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce. Car qui n'a pas violé la loi dans sa vie? C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Car aucun d'entre nous ne pouvions être sauvés. Mais la loi est nécessaire. Il est dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. La loi est moquée, la loi est contournée, la loi est rejetée, la loi est méprisée, la loi se venge. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Dieu. Tout le monde sait que pour vivre, il faut manger, c'est pas vrai? C'est une loi. Tu vas dire, je dépense trop d'argent pour manger, je ne vais pas manger. Pourras-tu vivre? Tout le monde sait qu'il faut se loger. Quelqu'un qui va vivre en plein air, sans abri, non! Il ne pourra pas vivre longtemps, il ne pourra pas vivre vieux. Chacun cherche son petit nid. C'est une loi. Et puis, on doit tous se vêtir. Si quelqu'un ne portait aucun vêtement complètement nu, d'abord, on le saisirait, on dirait qu'il est fou. Et puis, il ne pourrait vivre ainsi. Les intempéries, le climat, que sais-je encore? Non, c'est inconvenant pour des hommes. Il y a des lois. Ce jeune homme essaye de contourner son mal, de pallier à sa détresse. Il est dit. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans les champs garder les troupeaux. Les troupeaux de pourceaux, de cochons. Où est maintenant la liberté dont il se vantait? Où est-elle? Il reçoit des ordres maintenant. Il ne peut pas faire ce qu'il veut s'il veut manger, s'il veut vivre. Il reçoit des ordres. Cette liberté, où est-elle? Une tâche des plus honteuses et avilissantes pour un juif lui est infligée. Garde les cochons. C'est ce qui arrive quand on abandonne le peuple de Dieu pour un pays éloigné. Il a faim, il est en haillons, il est esclave, il envie même la nourriture des cochons. Personne ne lui donne quelque chose à manger. Tous ses amis avec lesquels il était dans la richesse, dans la débauche, dans la boisson, dans la luxure, l'ont abandonné. Le mensonge de la liberté sans loi et sans contrainte commence à être démasqué par la vérité implacable. La vérité est plus forte que le mensonge. Sachez-le bien. Vous pouvez mentir aujourd'hui, vous pouvez mentir demain, vous pouvez mentir pendant des années, mais le jour vient où c'est la vérité qui triomphera. Alors, ne choisissez jamais le mensonge. La Bible nous dit, étant entré en lui-même, ah, ça c'est bien, il y a quand même espoir. L'homme qui vit pour faire ce qu'il veut devient esclave de ce qu'il veut. Souvenez-vous de cela. L'homme qui vit pour faire ce qu'il veut devient esclave de ce qu'il veut. Indulgent envers lui-même, répondant à toutes les sollicitations de la chair, à toutes les convoitises, à tous les désirs, découvrira qu'il devient esclave de son corps, esclave de ses passions. Il a perdu sa liberté. Ses passions sont son maître, qu'il envoie garder les cochons. Il tombe au niveau de la bête. Étant entré en lui-même, j'aime ces mots, car cela me montre qu'il y a encore espoir avec le plus bas tombé. Quand nous rejetons Dieu, nous rejetons le véritable nous-mêmes. Dieu a mis son image en nous. Nous rejetons Dieu, nous rejetons nous-mêmes, ce qu'il y a de meilleur en nous. dans l'étourdissement des plaisirs, de l'argent, du pouvoir, de la vaine gloire, de l'orgueil, il y a la ruine et le rejet de soi-même. Comme un homme ivre, vous en avez vu de ces gens ivres. Ils étaient dignes autrefois, bien habillés, ils avaient de l'argent, ils avaient de la connaissance, mais possédés par la boisson, les voilà en guenilles, sales, ils s'enivrent, ils vomissent sur les tables, là où ils sont en train de boire, ils tombent par terre, ils ne sont plus que des loques. Comme un homme ivre qui ne sait ce qu'il fait, le véritable nous-mêmes est noyé, étouffé, étant entré en lui-même. La lumière que Dieu a envoyée pour éclairer les hommes commence à briller. Dans Jean 1,9, il est dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Laisse-toi éclairer par la lumière de la vérité. » Il a faim. Il a tout perdu. Ses biens, sa santé, sa respectabilité, sa liberté, il a perdu sa dignité, et même il a perdu la nourriture nécessaire pour vivre. Le corps et l'âme sont liés ensemble. Ce qui affecte le corps affecte l'âme aussi. Et souvent, l'éducation, la réflexion vient à travers la souffrance. Si tu n'apprends pas quand tout va bien, tu passeras par la souffrance. Et alors, à ce moment-là, tu entreras en toi-même. Et tu commenceras à respecter d'abord toi-même. La faim le fait entrer en lui-même. La faim qui éprouve son corps, la mène son âme à réfléchir. Il décide de faire appel à la miséricorde du Père. Il réfléchit, il dit, oui, j'étais mieux dans la maison du Père, en effet. Oui, dans la maison du Père. Mais comment je peux y retourner? Je vais y retourner, mais je dirai à mon Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi à cause de ma rébellion. Je ne demande pas que tu me reconnaisses comme ton fils. Non, je suis indigne, mais simplement, accepte-moi comme un de tes ouvriers, un de tes mercenaires, un de ces hommes qui travaillent pour toi et que tu donnes un salaire chaque jour. Leur situation est meilleure que la mienne. La vie dans la maison du Père, même en position de serviteur, est combien plus enviable que celle du pays éloigné. Il a décidé de confesser à son Père. La confession est nécessaire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, si nous ne confessons pas, il ne peut pas nous pardonner nos péchés ni nous purifier de toute iniquité. Voilà le chemin. Pharaon avait confessé, c'est vrai, quand il était au milieu du châtiment. Mais dès que la plaie s'est éloignée, alors il a endurci son cœur. Ça, c'est une fausse confession. Saül a confessé quand le prophète Samuel le reprend au nom de l'Éternel. Mais après, il retourne à son entêtement et à sa propre volonté. Judas a confessé et il a jeté l'argent à travers le temple. Car il a compris qu'il avait pris l'argent et versé le sang innocent. Mais sa confession n'était pas sincère, il s'est pendu lui-même. Le fils prodigue a confessé, sans chercher d'excuses, sans chercher à minimiser. « Oh oui, mais c'est parce que c'est pas ma faute, c'est la faute de celui-ci, c'est pas ma faute, mon père était trop sévère, c'est pas ma faute. » Non, il n'a mis le blâme sur personne. Il a compris que de pécher contre son Père, c'était de pécher contre lui-même. Contre le ciel et contre toi, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Son Père, mais il l'attend depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Il n'a pas oublié son fils. Tous les jours, il regarde sur la route, c'est par là qu'il va venir. Il regarde, et voici qu'un matin, il voit une silhouette maigre en haillon qui marche sur la route. Mais il n'a pas oublié son fils. Il connaît sa démarche, il connaît sa silhouette. Et combien de fois il le voyait déjà, il le voyait dans son esprit, dans sa mémoire. Il s'imaginait son retour. Il dit, c'est mon fils. Il quitte tout, il court le long sur la route et il le prend dans ses bras. Il pleure, mon fils, que voilà, il était perdu. Père, père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le père lui coupe la parole, il n'a pas le temps de dire, traite-moi comme un de tes mercenaires. Lisez le texte. Le père coupe la parole et il dit à ceux qui sont là, apportez la robe la plus belle. Il doit être revêtu de la justice du père. Sa honte doit être enlevée. Enlevez-lui ses haillons. La rébellion est effacée. Mettez un doigt à sa main, un signe de l'autorité restaurée. C'est mon fils, c'est l'héritier. Mettez-lui des souliers aux pieds. Un esclave est pieds nus, mais pas un fils héritier. Mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Pas de reproche amer, pas de temps de probation, pas d'épreuve pour tester sa sincérité. Il n'y a que la plénitude de l'amour du Père. Reviens, reviens à la maison du Père. Toi, rebelle, qui viens prier ici simplement pour calmer ta conscience, reviens à la maison du Père, soumets-toi à son autorité, souviens-toi que la liberté se trouve entre deux limites. Reviens à la maison du Père, pourquoi fais-tu? Fuis-tu son autorité? Pourquoi? Tu as fui pour faire ta volonté propre, tu as fui parce que tu es un rebelle de nature. Et tu es devenu à cause de cela un esclave malheureux et nu et aveugle. Reviens au Père tel que tu es. Entre dans ton héritage. Reprends ta position de fils héritier. Le Père te reçoit. Le Père te pardonne. Le Père te revêt. Le Père restaure ton autorité. Et il y a joie dans le ciel. Il y avait joie lorsque la brebis a été retrouvée. Il y a eu joie pour cette femme lorsqu'elle a retrouvé sa pièce. Il y a joie dans le ciel. Pourquoi? Mon fils était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Il t'appelle aujourd'hui, toi, rebelle. Baissons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien parmi nous ne sont pas rebelles? Combien parmi nous, Seigneur, n'ont pas suivi cette voie, ce chemin de la propre volonté, sous prétexte de liberté, Seigneur? Combien se sont laissés abuser par leurs passions charnelles, par leurs sentiments mauvais? Combien, Seigneur, t'ont tourné le dos pour vivre leur vie? Ils pensaient que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Non, la liberté, c'est faire ce que le Père veut. Toi, Père Céleste, aide-nous à comprendre ce que c'est que la vraie liberté. Ô mon Dieu, travaille dans les cœurs de chacun ce matin. Y a-t-il des hommes et des femmes aujourd'hui qui veulent revenir dans la maison du Père? Si vous voulez revenir dans la maison du Père, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes, il vous appelle. Revenez dans la maison du Père, vous avez erré, faisant votre propre volonté, marchant selon vos propres convoitises. Vous êtes chrétien, vous avez une carte de membre dans la poche, mais vous avez quitté la maison du Père. Vous avez levé la main, le poing dans les rues. Vous vous êtes livré au pillage. Vous avez dénoncé, vous avez menti. Vous avez vécu dans l'immoralité. Et vous venez à l'église et vous avez la Bible à la maison. Revenez dans la maison du Père. Humiliez-vous. Il vous appelle aujourd'hui. Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se sont levés maintenant. Seigneur, reçois-les et qu'ils rentrent dans ta maison. Renouvelle-les, change-les, transforme-les, qu'ils deviennent tes disciples, tes enfants. Ô Dieu, je t'en supplie. Prends-les par le cou. Revêt-les, Seigneur, de ta robe, de la robe de ta justice. Mets à leurs doigts ton anneau, Seigneur, d'autorité, et chausse leurs pieds des souliers, des sandales de l'Évangile. Héritier des promesses, héritier de la vie éternelle, restaure-les maintenant. Au nom de Jésus, Reprenez vos places. Et Seigneur, à cette heure, nous sommes devant toi. Et nous voulons prendre cette communion, Seigneur, en témoignage de notre communion avec le Père. Cette communion qui est le témoignage de l'amour du Père, de la compassion du Père envers nous. Cette communion qui rend témoignage que nous sommes dans la maison du Père et que nous mangeons à sa table. C'est vrai, Seigneur, ce n'est que quelques petits morceaux de pain et une toute petite coupe. Mais Seigneur, c'est un symbole du repas que nous prendrons là-haut au banquet des noces de l'agneau, bientôt, oui, très bientôt. Seigneur, c'est un mémorial de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous faisons. Que chacun examine son cœur honnêtement devant Dieu. Et si vous êtes dans la maison du Père, alors prenez cette communion. Mais si vous êtes dans la maison de la rébellion, du pays lointain, ne prenez pas cette communion. Ce serait un mensonge. Je ne suis pas là pour dire qui va prendre et qui ne va pas prendre. Mais je suis là pour vous mettre devant vos responsabilités. Juge-toi toi-même afin de ne pas être jugé. Père, oui, tu es mon Père et je suis ton enfant. J'ai été rebelle combien de fois, mais ton amour m'a toujours ramené dans ta maison. Père, ce pain représente le prix qui a été payé pour mon rachat. Donne-moi et donne-nous de le prendre en discernant le sacrifice accompli sur la croix. Père, la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain et il le rompit et le leur donna et dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et Seigneur, dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Nous pouvons, aujourd'hui même, alors que nous prenons cette communion, trouver la guérison dont nous avons besoin. Merci Seigneur. De même, il prit la coupe et il leur dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Car en le faisant, vous annoncez la mort du Seigneur et son retour. Dans son sang, il y a purification. Que ceux qui prennent la communion se lèvent, s'il vous plaît. Thank you.
tristesse tu meurs, abandonné tout seul et méprisé ton sang ainsi versé.
Espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.